Presque 6 mois des élections, le bureau d'études de marché Incidence a interrogé plus d'un millier de Belges sur leurs attentes et prédictions pour 2024. Il ressort de cette étude que les Belges des 3 régions optent pour la stabilité avec Alexander De Croo au poste de Premier ministre. On en parle avec Caroline Sagesser, elle est politologue au CRISP et elle répondait aux questions de Blaise van der Linden.
Caroline Sagesser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP. À presque 6 mois des élections, le bureau d'études de marché Incidence a interrogé plus d'un millier de Belges sur leurs attentes et prédictions pour 2024. Et c'est la stabilité qui est récompensée. En effet, une bonne partie des Belges voient Alexander De Croo toujours occuper le poste de Premier ministre après ces élections. Pour commencer, au vu de son année 2023, c'est plutôt une surprise, non ?
Oui et non. Disons, ce qui est remarquable, évidemment, c'est qu'il est en plébiscité par les Belges des 3 régions du pays. Mais je pense que lui-même n'a pas eu une si mauvaise année 2023. C'est une année extrêmement délicate pour son parti, évidemment, qui se porte mal. Le gouvernement, la Vivaldi, a eu beaucoup de mal à avancer dans une série de dossiers. Mais je trouve que le Premier ministre a réussi à rester un peu au-delà de la mêlée. Et par ailleurs, il a, de mon point de vue, mener une campagne de communication relativement consensuelle et efficace. Rappelons-nous qu'au mois de juillet, il a publié une lettre ouverte à tous les Belges dans les quotidiens. Il a participé à une émission de la VRT, le programme qui s'appelle Hot Huis, qui l'a montré sous un jour, je dirais, assez sympathique. Tout récemment, il vient d'adresser des vœux à la population, hein, trouvant un peu des accents semblables à ceux d'un chef d'État. Donc oui, je dirais qu'au niveau de la façon dont il a occupé la fonction de Premier ministre, ce n'était sans doute pas une si mauvaise année pour Alexander De Croo, et sans doute qu'effectivement, le résultat de ce sondage reflète cet état de choses.
Lui, on sait si lui c'est quelque chose auquel il aspire, conserver son poste de Premier ministre ?
Alors, à plusieurs reprises, il a dit qu'il était effectivement prêt à poursuivre dans cette fonction après le prochain scrutin. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il avait dit d'emblée quand il est devenu Premier ministre en 2020, en indiquant qu'il s'inscrivait dans un temps long qu'il voyait jusqu'à 2030. Mais ça va être extrêmement compliqué pour lui, puisque les sondages sont très défavorables à son parti. L'Open VLD est pointé à 7% en Flandre, ce qui est vraiment très peu. Et on ne voit pas très bien quelque soit sa popularité personnelle, dans quelle configuration il pourrait conserver son poste après les élections, étant entendu évidemment qu'il le conservera pendant un certain temps, mais en tant que Premier ministre d'un gouvernement en affaires courantes, je ne vois pas bien Alexander De Croo redevenir Premier ministre dans un nouveau gouvernement, dans une Vivaldi bis. En quelque sorte.
C'est ça, avec ce sondage, c'est sa personnalité plutôt discrète et médiatrice qui est récompensée ?
Oui, je pense, mais effectivement, dans notre système électoral, ça n'offre pas de garantie de continuer à occuper la fonction de Premier ministre. Alexander De Croo sera tête de liste pour l'Open VLD dans la circonscription de Flandre orientale, où il avait fait à peu près 80 000 voix en 2019, donc il peut espérer améliorer ce score et peut-être conserver les 4 sièges qui étaient acquis à l'Open VLD dans cette circonscription, hein, ça correspondait environ à 17%, ce qui était plus que le score global de l'Open VLD en Flandre. Maintenant, je doute qu'il reste à ce niveau-là, même en Flandre orientale. Mais donc voilà, on est dans un système où la popularité personnelle du Premier ministre ne suffira pas, loin de là, à lui faire conserver son poste.
Les autres grosses têtes des partis, on cite Georges-Louis Boucher, Raoul Edebaut, Bart De Wever ou Tom Van Grinken, ce sont des personnalités fortes, elles sont clivantes. C'est ce qui sert aussi au Premier ministre ?
Oui, disons qu'on voit bien dans le fait qu'il soit populaire tant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, ce côté, je dirais, un peu plus rond. Et effectivement, je crois que la fonction permet aussi en Belgique d'émerger un peu et de s'imposer sur le plan national, alors que, par exemple, Bart De Wever, il reste président de la NVA, bourgmestre d'Anvers, et donc son aura, elle est entièrement limitée au nord du pays, à la Flandre. On est dans un système où les partis politiques sont sont clivés linguistiquement. Donc, tant qu'on ne devient pas ministre au niveau fédéral, eh bien, on a un peu de mal à développer sa popularité au-delà des frontières linguistiques.
Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, bien que nous soyons à 6 mois des élections, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, la question qu'on se pose le plus, c'est surtout la durée des négociations post-élection.
Oui, effectivement. Là, je dois dire que je ne suis pas très optimiste parce que les derniers sondages nous donnent des résultats extrêmement préoccupants avec un Vlaams Belang, un parti d'extrême droite qui sera premier parti en Flandre, donc dans le pays, avec aussi une séquence électorale qui est compliquée en 2024 puisque après les élections fédérales régionales de juin, eh bien, il y aura des communales, des provinciales au mois d'octobre. Et donc, on peut imaginer que la perspective de ce second scrutin rendra également les partis extrêmement prudents au moment de négocier les coalitions. Et donc, je m'attends effectivement à une crise politique très longue.
Sans jouer avec une boule de cristal, on peut peut-être se dire qu'on va retrouver les 500 jours sans gouvernement?
Ce n'est pas du tout exclu, effectivement, parce qu'il nous faudra beaucoup de temps pour que les résultats du scrutin se décantent, pour choisir entre, je dirais, une option qui serait former un gouvernement qui a son programme une réforme de l'État approfondie selon un axe, je dirais, PSNVA, en prenant les deux principales formations politiques de chaque communauté linguistique, ou bien suivre de nouveau la voie, je dirais, un peu vivaldienne, mais tout en sachant que les 7 partis qui composent la Vivaldi aujourd'hui n'auront sans doute plus la majorité, donc il faudrait passer sans doute à 8 avec les engagés, et puis il faudra vraiment avoir un peu fermé la porte de la première hypothèse pour que, faute de mieux quelque part, eh bien, on en vienne à ce type de gouvernement élargi sans la NVA.
Une personne que nous n'avons pas évoquée dans cet entretien, c'est Sophie Wilmès. Elle pourrait être une surprise ?
Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est quelqu'un dont la popularité s'est maintenue à un niveau très élevé, et particulièrement du côté francophone. Disons que c'est surtout une question qui va se poser à l'interne du MR. Si le MR était en position de revendiquer ce poste de Premier ministre, bien je pense qu'à l'intérieur même du parti, il y aurait pas mal de voix pour s'appuyer sur cette popularité de l'ancienne Première ministre pour dire, mais voilà, c'est Sophie Wilmès qui doit prendre le job et pas Georges-Louis Boucher.
Vous avez évoqué le Vlaams Belang dans la région flamande. Aujourd'hui, même si nous en sommes à 6 mois, quelles sont à peu près les tendances ?
Alors, la tendance, effectivement, la plus préoccupante, c'est ce Vlaams Belang, premier parti en Flandre devant la NVA, avec peut-être la possibilité de former un gouvernement flamand disposant d'une majorité entre l'extrême droite et les nationalistes flamands. Et donc, ce sera à ce moment-là une situation extrêmement délicate pour Bart De Wever, qui devra faire en sorte de maintenir la cohésion de son parti sans s'engager avec le Vlaams Belang, puisque à plusieurs reprises, effectivement, il a affirmé que tel n'était pas son projet. Donc, ça va prendre du temps. Du côté francophone, je dirais, les jeux paraissent encore relativement ouverts également, mais il semble bien que là aussi, nous devrions avoir du côté de la région wallonne au minimum une tripartite. Alors, il y a une possibilité d'imaginer un gouvernement, je dirais, plutôt de type Olivier, ancré à gauche, avec le PS, écolo, avec les engagés, sachant que personnellement, j'exclus de former une coalition avec le PTB. Je crois que ça n'est pas du tout dans les cartes. Par contre, je pense aussi que les engagés ne vont peut-être pas volontiers vouloir s'engager dans ce type de coalition ancrée à gauche. Donc, peut-être préféreraient-ils voir naître une espèce de tripartite traditionnelle avec les libéraux, les socialistes et alors les centristes. Mais donc tout reste un peu ouvert et je crois que c'est un scrutin dont les résultats seront particulièrement intéressants à observer.
Eh bien, c'est un scrutin qu'on suivra évidemment sur Radio Judaïka. Caroline Segesser, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec grand plaisir.